L'auteur, C.S. Lewis, a écrit, il y a deux erreurs égales et opposées, dans lesquelles nous pouvons tomber à propos du mal et des démons. La première est de ne pas croire à leur existence. L'autre est de croire à leur existence, mais d'éprouver un intérêt excessif et malsain pour eux. Le diable est satisfait des deux erreurs. En d'autres termes, Lewis dit que nous commettons une erreur en sous-estimant le mal. Mais l'autre erreur est de surestimer le mal. Par exemple, plus tôt cette semaine, j'ai eu un pneu crevé sur ma voiture. Certaines personnes diraient qu'il y avait un démon dans mon pneu, et que c'est pour cela qu'il est devenu crevé. En d'autres termes, certaines personnes essaient d'expliquer tout par des forces démoniaques. C'est un extrême. Mais l'autre extrême serait de dire qu'un pneu crevé n'a aucun impact spirituel. Je conviens qu'un pneu crevé reste un pneu crevé. J'ai roulé sur quelque chose sur la route, et c'est la raison pour laquelle il est devenu crevé. Je pense qu'il y a une raison logique et physique à ce que mon pneu se soit crevé. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que le pneu crevé n'a eu aucun impact sur moi sur le plan spirituel. Quand j'ai vu le pneu, j'ai ressenti de la frustration. J'avais déjà tant de choses à faire, et maintenant, je devais aussi m'occuper d'un pneu crevé. Cela allait me coûter du temps, cela allait me coûter de l'argent, et cela m'a affecté spirituellement. J'étais troublé, j'étais découragé. Cela troublait ma paix. Nous faisons une erreur en surestimant le mal, mais nous commettons aussi une erreur en le sous-estimant. Si vous avez une Bible, veuillez ouvrir avec moi à Marc, chapitre 5. C'est une histoire connue des évangiles. C'est l'histoire d'un combat spirituel qui se manifeste dans le monde physique. Peut-être que vous êtes ici aujourd'hui, vous regardez la semaine passée et vous avez le sentiment d'être vaincu. Vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup de combats spirituels la semaine dernière. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Allons dans Marc, chapitre 5. 5:1. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. La nuit précédente, Jésus avait calmé une tempête avec ses disciples. Ils étaient dans une barque. Et il est dit qu'ils allèrent de l'autre côté de la mer de Galilée, là où se trouvaient les Géraséniens. C'est un endroit différent, avec des gens différents. Il y avait quelques Juifs là-bas, mais c'était principalement des païens, c'est-à-dire des non-Juifs. Et lorsque Jésus sortit de la barque, aussitôt un homme avec un esprit impur vint à sa rencontre, sortant des tombeaux. Jésus sort de la barque et est immédiatement confronté à un homme ayant un esprit impur. Cet homme est possédé par un esprit impur. Une autre façon de dire le mot démon. Qu'est-ce qu'un démon? La Bible parle des démons comme des anges déchus qui suivent le diable. Ce sont des êtres spirituels mauvais. Ils n'influencent pas les gens pour leur bien, mais pour le mal. Et cet homme est possédé par un démon. Il est toujours important de se rappeler qu'en tant que chrétien, nous ne pouvons pas être possédés par des démons. La Bible dit qu'en Christ, nous avons reçu le dépôt du Saint-Esprit. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes ses enfants. Personne ne peut nous arracher de la main du Père. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Pouvons-nous être influencés par le mal? Bien sûr. En tant que croyants dans ce monde brisé, nous pouvons encore tomber dans le péché. Nous pouvons encore être influencés par le mal. Mais en Christ, nous ne pouvons jamais être possédés par des démons. Jamais il n'est dit dans la Bible de chasser un démon d'un croyant. On nous dit de résister au diable et de nous éloigner du mal. Mais ici, dans cette histoire jusqu'à présent, cet homme ne connaît pas encore le Christ, et son corps est contrôlé par un esprit impur, un démon. Mais Jésus descend de la barque et rencontre cet homme. Jésus venait d'apaiser une tempête, mais un autre genre de tempête surgit.
3. Il vivait parmi les tombeaux,
et personne ne pouvait plus le lier, même pas avec une chaîne, car il avait souvent été attaché avec des fers et des chaînes, mais il avait brisé les chaînes et mis en pièces les fers. Personne n'avait la force de le maîtriser. Il est dit que cet homme vivait dans les tombeaux. À cette époque, dans cette région, on enterrait souvent les gens dans des grottes ou des tombeaux creusés dans la roche. Et c'était là que cet homme vivait, parmi les ossements, et Dieu sait ce qu'il pouvait y avoir d'autre. À l'époque, on croyait que les démons rôdaient autour des tombeaux et des morts. Donc, d'une certaine façon, c'était un lieu naturel pour lui, puisqu'il était possédé par un démon. On pourrait dire que cela est aussi un peu métaphorique. Il vivait parmi les morts. Et, spirituellement, il était mort lui aussi. Il vivait à l'écart de la société. Et nous voyons pourquoi au verset 3. Des gens avaient essayé de le retenir et de l'arrêter, mais ils ne pouvaient pas être maîtrisés. Ils avaient essayé de le lier avec des chaînes, mais cela n'avait pas fonctionné. Ils avaient tenté de le retenir avec des entraves, mais cela non plus n'avait pas marché. Il arrachait simplement les chaînes ou brisait les entraves. Le verset 4 dit que personne n'avait la force de l'arrêter. Si vous êtes fan de Marvel ou de bande dessinée, il est facile de s'imaginer cet homme comme l'incroyable Hulk, incroyablement fort et impossible à maîtriser. Mais bien sûr, l'incroyable Hulk est gigantesque, et cet homme était probablement de taille normale. Mais cet homme est très tourmenté. Regardez le verset 5. 5. Nuit et jour. Parmi les tombeaux et sur les montagnes, il criait sans cesse et se blessait avec des pierres. Cet homme était torturé. Au verset 5, il est dit que tout au long du jour et de la nuit, cet homme criait. Il se blessait avec des pierres. Sans aucun doute, il était couvert de sang. Il était isolé de la société et il se faisait du mal. C'est le genre de personne dont on voudrait s'éloigner. Mais il était toujours un homme. Il avait toujours été créé à l'image de Dieu. Il avait encore de la valeur. Mais cet homme était dans un état terrible. Il était misérable. 6. Et quand il vit Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. L'homme voit Jésus sortir de la barque, il court vers Jésus et tombe à ses pieds. Nous ne savons pas si c'est l'homme qui a fait cela de son propre gré parce qu'il voulait être libéré de ses démons, ou si ce sont les démons qui voulaient se rendre d'emblée. Néanmoins, l'homme s'approche de Jésus et le démon commence à parler.
7. Et criant d'une voix forte, il dit « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, par Dieu, ne me tourmente pas. » 8. Car Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur. » Le démon s'adresse à Jésus. Par son nom, il appelle le fils du Dieu très haut. Les démons ne sont pas ignorants de qui est Jésus. Ils savent. Le livre de Jacques 2:19 dit que les démons croient aussi en Dieu. Donc, les démons savent qui est Jésus, et ils croient en Dieu. Cela signifie-t-il que les démons sont sauvés, comme nous? Puisqu'ils savent qui est Jésus, et qu'ils croient en Dieu. Non. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est de connaître Dieu, mais aussi de lui faire confiance comme Seigneur. Les démons savent qui est Dieu, mais ils n'ont pas foi en lui. Ils n'adorent pas Dieu. Ils lui résistent toujours. Ils ne veulent pas suivre Jésus. C'est pourquoi savoir des choses sur Dieu ne suffit jamais. Tout se résume à savoir, si nous lui faisons confiance, à lui seul. Je peux connaître quelqu'un sans lui faire confiance. Et c'est aussi vrai pour les démons.
La structure du pouvoir devient également claire. Le démon reconnaît la puissance de Jésus et demande à Jésus de ne pas le tourmenter. Bien sûr, c'est une demande intéressante puisque ce démon torture cet homme probablement depuis toute sa vie. Pourtant, le démon essaie de demander miséricorde à Jésus. 9. Et Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Mon nom est Légion,
car nous sommes nombreux. »
Jésus avait dit au démon de sortir de cet homme.
Alors Jésus demande le nom du démon, et il dit « Légion, car nous sommes nombreux ». À l'époque de l'Empire romain, une légion était la plus grande unité de l'armée. Une légion complète dans l'armée signifiait qu'il y avait 6000 soldats. Nous ne savons pas si cela signifie que l'homme avait 6000 démons qui le tourmentaient, mais on peut supposer qu'il y en avait probablement beaucoup.
Le fait que le nom du démon soit Légion montre à quel point la situation était grave pour cet homme. Il était vraiment tourmenté.
10. Et il le supplia instamment de ne pas les envoyer hors du pays.
11. Or il y avait là sur la colline un grand troupeau de porcs qui paissaient. 12. Et il le suppliait en disant, « Envoie-nous vers les porcs, afin que nous entrions en eux. »
13. Il le leur permit.
Alors les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les porcs, et le troupeau d'environ 2000 se précipita du haut de la rive escarpée dans la mer, et ils se noyèrent dans la mer.
Le démon supplie Jésus de ne pas l'envoyer hors du pays. Dans l'évangile de Luc, lorsque nous lisons la même histoire, nous obtenons quelques détails supplémentaires à ce sujet. Le démon demande à Jésus de ne pas l'envoyer dans l'abîme, qui, dans le livre de l'Apocalypse, est l'endroit où Satan est jeté pour 1000 ans avant le jugement.
En même temps, il y avait un troupeau de porcs qui mangeait sur la colline.
Rappelez-vous, ce n'était pas un territoire juif, donc les païens mangeaient certainement du porc, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes catégories de pur et d'impur.
Ainsi, les démons demandent à entrer dans les porcs, et Jésus accepte.
Les démons quittent l'homme et entrent dans les porcs. Il y avait environ 2000 porcs, et lorsque les démons y entrent, ils se précipitent de la colline, dans la mer, et se noient. C'est l'essence même des démons. Ils n'allaient jamais entrer dans les porcs pour ensuite mener une vie tranquille et normale à manger sur la colline.
Non. Les démons n'ont qu'un seul objectif, la destruction et le mal.
Ils ont essayé de détruire l'homme, et maintenant qu'ils sont dans les porcs, ils détruiront les porcs.
Ce qui m'amène à mon premier point, 1. Le combat spirituel est réel.
Nous ne vivons pas dans un monde neutre.
La Bible dit qu'il y a un combat spirituel constant entre Satan et le royaume de Dieu.
Éphésiens 6 dit, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Jean 10 dit que Satan vient pour voler, tuer et détruire.
Ne sous-estimez pas le diable. Le mal existe. Ces démons essayaient de détruire cet homme. Les démons sont mauvais dans le domaine spirituel. Ils n'influencent pas les gens pour leur bien. Ils les influencent pour le mal. Et ils avaient élu domicile dans cet homme. Je me souviens qu'il y a quelques années, je prenais mon petit déjeuner, tenant notre fille Nora, alors qu'elle n'était qu'un bébé, et j'ai reçu un coup de téléphone. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu, et c'était un homme qui demandait de l'aide parce qu'il était tourmenté par des démons. Je n'ai jamais rencontré cet homme. Il n'est jamais venu à l'église gospel. Il n'habite même pas en Pologne. Mais il était désespéré et a dû me trouver en ligne. Il avait peur, il était effrayé et fatigué d'être tourmenté. Alors j'ai prié pour lui. Je prie pour qu'il aille bien aujourd'hui.
Le combat spirituel est réel. Et bien que nous, en tant que chrétiens, ne puissions pas être possédés par des démons, nous pouvons tout de même être tentés par le mal. Nous vivons toujours dans un monde brisé et déchu. Il suffit de lire les actualités. Chaque jour, il y a des histoires de tragédies. Et nous avons tous vu et été témoins de tragédies dans nos vies. C'est un combat spirituel. Et le monde spirituel influence le monde physique.
Mais je veux que vous remarquiez autre chose dans cette histoire.
Deuxième point. 2. Le combat spirituel n'est pas un affrontement égal.
Le combat spirituel est réel, mais il n'est pas égal.
Ne sous-estimez pas le diable, mais ne le surestimez pas non plus. Relisez l'histoire. Ce n'est pas le yin et le yang. Il ne s'agit pas d'un combat 50-50. Ce n'est même pas vraiment un combat. Lorsque Jésus arrive, l'homme tombe devant Jésus. Le démon n'essaie même pas de se battre. Il demande seulement la miséricorde.
Peut-être avez-vous vu le mème en ligne. Tout le monde fait le gangster jusqu'à ce que... L'idée, c'est que tout le monde fait le dur jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'inattendu. Donc, tout le monde fait le gangster jusqu'à ce que l'araignée bouge, ou tout le monde fait le gangster jusqu'à ce que papa rentre à la maison. Eh bien, on pourrait dire, d'après cette histoire, tout le monde fait le gangster jusqu'à ce que Jésus descende du bateau. Les démons savent tout de suite qu'ils n'ont aucune chance contre lui. Lorsque Jésus sort du bateau et rencontre cet homme, il est très clair de voir qui commande. Il est clair qui détient la puissance. Jésus est tout-puissant. Jésus n'a pas peur de ce démon. Jésus les chasse dans les ports et ils disparaissent. Voilà pourquoi je voulais prêcher sur ce passage aujourd'hui. Je crois que bien souvent, nous oublions que le combat spirituel n'est pas un affrontement égal. Nous oublions que toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à Jésus. Nous oublions que nous avons reçu la puissance lorsque le Saint-Esprit est venu dans nos vies. Au lieu de nous rappeler qu'en Christ, nous sommes dans l'équipe victorieuse, nous devenons fatigués et commençons à avoir l'impression d'être dans l'équipe perdante.
Dans son célèbre livre, L'Art de la Guerre, Sun Tzu a dit que chaque bataille est gagnée ou perdue avant même d'être livrée. Son point de vue était que si un pays entre en guerre ou s'engage dans une bataille en pensant qu'il va perdre, alors il est très probable qu'il perde effectivement. Et si un pays entre en guerre très confiant, très préparé et pense qu'il va gagner la bataille, alors je crois que cela augmente aussi ses chances de gagner. Chaque bataille est gagnée ou perdue avant même d'être livrée. Ce n'est pas toujours vrai, mais il y a une part de vérité là-dedans. Si vous entrez dans le combat contre la tentation en pensant déjà que vous allez perdre, si vous entrez dans le combat en pensant que Satan a déjà gagné, si vous entrez dans le combat en croyant que vous ne pourrez jamais le surmonter par Christ, alors il y a de fortes chances que vous ayez perdu le combat contre la tentation avant même qu'il ne commence. Oui, nous sommes dans un combat spirituel, mais ce n'est pas un affrontement égal. Nous allons voir la victoire, car la bataille appartient au Seigneur.
1 Jean 4:4 dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Vous avez compris? Ce n'est pas du 50-50. Jésus est plus grand que Satan qui est dans le monde. Colossiens 2:13-15 dit « Vous qui étiez morts dans vos fautes et l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. »
14. En effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. 15. Il a dépouillé nos dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Notre combat est contre les autorités et les puissances spirituelles, mais Jésus les a déjà vaincus à la croix. Il a triomphé du péché et de la mort une fois pour toutes. N'entrez pas dans le combat spirituel en pensant que vous allez perdre. Entrez dans le combat en croyant qu'en Christ, vous serez victorieux. Parce que la Bible dit que même quand vous êtes faible, lui, il est fort.
Satan a-t-il une certaine autorité dans ce monde?
Oui, mais il est comme un chien en laisse. Un chien en laisse peut bouger, il peut aboyer, il peut sauter. Mais au moment où il essaie d'aller au-delà de la longueur de la laisse, il est arrêté. Nous servons le Dieu très haut. Romains 8:37 dit que nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous aime. Il y a un combat spirituel chaque jour, mais vous n'êtes pas dans l'équipe perdante.
vous faites partie de l'équipe victorieuse en Christ. Pendant toute la vie de cet homme dans Marc chapitre 5, il ne connaissait pas Jésus comme Seigneur. Les démons le dominaient. Sa vie sans Jésus était misérable, sans espoir, solitaire, sombre, violente, pleine de tourments. Mais dès qu'il a rencontré Jésus, les démons n'allaient plus s'en prendre à cet homme. Ils l'ont quitté, sont entrés dans les ports et sont partis. Très vite, la nouvelle s'est répandue.
14. Les gardiens des troupeaux s'enfuirent et racontèrent ce qui s'était passé dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé.
15. Ils vinrent auprès de Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils eurent peur.
16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au porc.
17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire.
Les gardiens des troupeaux quittent les collines et courent en ville pour raconter aux gens ce qui s'est passé.
Et quand ils arrivèrent et virent l'homme qui habitait autrefois parmi les tombeaux, qui ne pouvait être retenu ni par des chaînes, ni des entraves, il n'en revenait pas.
Il est même dit qu'ils eurent peur.
Ils n'avaient jamais vu un tel pouvoir auparavant.
Au verset 16.
Il y a un autre rapport
sur ce qui s'est passé.
L'œuvre transformatrice de Jésus dans la vie de cet homme.
Et au verset 17, on lit qu'ils supplièrent Jésus de partir, probablement parce qu'ils craignaient une telle puissance à l'œuvre.
Mais j'aime l'image de l'homme au verset 15. Plus tôt dans le chapitre 5, il est décrit comme Hulk, vivant parmi les tombeaux, seul, torturé. Mais au verset 15, il ne court plus partout comme un fou. Il est dit qu'il est assis, il était vêtu, il était dans son bon sens. Il était de nouveau parmi les gens. Il avait la paix.
Ce qui m'amène à mon dernier point, 3. Jésus peut transformer ta vie.
Normalement, quand nous pensons à Jésus guérissant des gens, nous pensons au physique.
Jésus guérissant l'aveugle, Jésus guérissant le lépreux, Jésus ressuscitant Lazare d'entre les morts.
Mais cet homme semble aller bien physiquement.
Il était fort et puissant.
Il ne semblait pas du tout avoir d'incapacité physique.
Le problème était son âme.
Ce dont il avait besoin, c'était d'une guérison spirituelle.
Il avait besoin de la paix qui surpasse toute intelligence.
C'est cette guérison dont tout le monde a besoin.
La guérison physique est temporaire, mais la guérison spirituelle dure éternellement.
La vérité, c'est que nous allons tous mourir un jour.
Nos corps finiront par nous trahir.
Nous allons tous nous présenter devant Dieu pour le jugement.
Et ce qui compte le plus à ce moment-là, c'est si tu as fait confiance à Jésus-Christ comme Seigneur de ta vie.
Ce qui importe le plus, c'est si tu as cru à la bonne nouvelle de l'Évangile,
que Jésus est venu et est mort sur la croix pour ton péché.
Il a été enseveli, mais il est ressuscité 3 jours plus tard,
et en te repentant de ton péché et en croyant qu'il est le Seigneur,
tu peux être sauvé, tu peux être pardonné,
et tu peux vivre pour toujours avec Jésus.
La guérison spirituelle dure éternellement,
et c'est la décision la plus importante que tu puisses prendre dans ta vie.
Certaines personnes dans le monde aujourd'hui ne croient pas à l'âme.
Alors ils font du corps la chose la plus importante.
Ils essaient de perfectionner leur corps.
Ils subissent des opérations pour essayer de paraître plus jeunes.
Mais ces corps finiront par nous trahir.
Ils sont périssables.
Mais nos âmes durent pour toujours.
Et Jésus veut apporter la guérison à ton âme.
Regarde, si Jésus a pu transformer la vie de cet homme, il peut transformer la vie de n'importe qui.
Peu importe ce que tu as fait dans le passé, quand tu fais confiance à Jésus, Dieu peut apporter la guérison dans ta vie.
Il peut te pardonner des choses que personne d'autre ne pourrait te pardonner.
Comme je l'ai dit plus tôt, la vie de cet homme était misérable avant qu'il ne rencontre Jésus,
sans espoir, solitaire, sombre, violente, pleine de tourments.
Peut-être que tu t'identifies à cet homme aujourd'hui. Tu as essayé de vivre par tes propres moyens, mais les résultats ont été décevants. Tu te sens seul et sans espoir. Je veux te dire ce matin que Jésus peut transformer ta vie. En lui faisant confiance, il peut apporter la guérison à ton cœur. Il l'a fait pour cet homme et il peut le faire pour toi aussi. Il n'est pas trop tard pour rejoindre l'équipe victorieuse. Après tout, n'es-tu pas fatigué de perdre?
18. Comme il montait dans la barque, l'homme qui avait été possédé par des démons le supplia de pouvoir rester avec lui.
19. Mais Jésus ne le lui permit pas et lui dit, « Rentre chez toi, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. »
20. L'homme s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Jésus monte dans la barque pour partir et continuer son ministère. Mais l'homme ne veut pas que Jésus s'en aille. Mais Jésus lui dit de rentrer chez lui et de raconter aux gens ce que Jésus a fait dans sa vie. Comment Dieu a eu pitié de lui. Et il est dit que l'homme fit exactement cela et que tous étaient émerveillés.
Et comme je le dis toujours, c'est l'image de l'évangélisation que nous voyons dans le Nouveau Testament. Bien souvent, nous pensons à l'évangélisation comme à une tâche que nous devons accomplir, mais dont nous avons un peu honte. Ce n'est pas l'image que nous avons ici. Jésus vient d'accomplir une œuvre incroyable dans la vie de cet homme, et il a hâte de la raconter aux autres. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle.
Et une bonne nouvelle est toujours excitante à partager. Je suis certain que les gens avaient abandonné l'homme possédé par les démons. Je suis certain qu'il était insupportable à côtoyer quand il était mauvais. Je suis certain qu'il était difficile d'être à ses côtés. Je suis certain que les gens avaient perdu espoir pour lui. Mais Jésus est tout-puissant. Il ouvre un chemin, et rien n'est impossible à Dieu. D'une certaine façon, nous étions tous comme cet homme. Nous marchions sur une voie menant à la destruction, mais Jésus est intervenu. Jésus a ouvert un chemin. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés, par la foi. Et maintenant, nous le suivons avec joie et paix, et nous sommes appelés à partager cette merveilleuse nouvelle avec les autres autour de nous.
La Bible dit de veiller, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et cela est vrai. Mais il rôde comme un lion. Ce n'est pas le vrai lion. Nous servons le vrai lion et l'agneau. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je veux terminer en revenant au pneu crevé que j'ai eu plus tôt cette semaine. Est-ce que je crois qu'il y avait un démon dans mon pneu? Non, je ne le crois pas. Mais est-ce que je crois que le pneu crevé m'a affecté spirituellement? Oui. Comme je l'ai dit, j'étais troublé. J'étais découragé. Cela affectait ma paix. J'avais tellement de choses à faire la semaine dernière. Pourquoi cela devait-il arriver à ce moment-là? Mais alors, je me suis souvenu de quelque chose d'important. Je me suis rappelé que Dieu était toujours aux commandes. Il n'était pas tombé de son trône. Il régnait encore et dominait.
Alors ma question est passée de « Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ?» à « Qu'essaies-tu de m'enseigner, Seigneur ?»
Bien souvent, nos prières sont toujours « Seigneur, change mes circonstances, change ceci, change cela, change ce problème, change cet autre problème, et ainsi de suite. » Et nous devons venir à Dieu avec ses désirs. Mais je pense aussi qu'au milieu de toutes ces choses, est-il possible que ce que le Seigneur veut changer avant tout, c'est moi?
C'est toi? Alors, qu'est-ce que je pense que le Seigneur voulait m'apprendre?
Eh bien, tu peux peut-être deviner. C'est assez évident. Ralentir. On ne peut pas aller très vite avec un pneu crevé. Et on ne peut pas aller très loin non plus. J'ai réalisé que je faisais trop de choses. Je m'imposais trop de choses. Des choses que le Seigneur ne m'avait pas données, mais des choses que je m'imposais moi-même. Après tout, le joug de Jésus est facile et son fardeau léger.
Ah si,
changer le pneu la semaine dernière est devenu pour moi un exercice spirituel. J'ai bloqué un créneau un matin et je me suis dit, d'accord, je vais changer ce pneu pour la gloire de Dieu. Je retire le pneu et je vais mettre la roue de secours. Mais je réalise alors que la roue de secours n'a pas de jante. Or, je n'ai pas les outils nécessaires pour retirer la jante du pneu crevé. Donc je dois me rendre dans un atelier de pneus. Pour faire court, d'autres imprévus sont survenus. Il y a eu beaucoup d'autres occasions d'être frustré. Il y a eu beaucoup d'autres moments où j'aurais pu conclure « Ma voiture doit être possédée par un démon. Mais Christ qui est en moi est plus grand que lui, le diable qui est dans le monde. Je ne veux pas sous-estimer l'ennemi, mais je ne veux pas non plus le surestimer. Jésus ne m'a jamais promis que cette vie serait facile, mais il m'a promis qu'il est avec moi. Alors, que je lui rende gloire lorsque mes pneus sont pleins, et que je lui rende gloire lorsque mes pneus sont crevés. »
Quelque chose d'inattendu va t'arriver cette semaine. Quelque chose ne se passera pas comme tu l'avais prévu. Mais avant de tout attribuer à un démon, ou avant de prier « Seigneur, change ceci ou cela », peux-tu t'arrêter un instant et envisager la possibilité que, au milieu de tout ce qui t'arrive de surprenant, que ce soit un examen raté, un train manqué, quelqu'un qui te déçoit, ou même un pneu crevé. Peux-tu t'arrêter et envisager la possibilité que, peut-être, il y a quelque chose que Dieu veut changer en toi? Prions. Fin du sermon.